Merci Jean-Luc pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est quand même un jour un peu spécial. C'est un jour spécial parce que c'est les rameaux, mais je ne sais pas si des gens ont assez d'expérience pour se souvenir en quoi il peut être spécial aussi pour moi. Il est spécial parce que il y a précisément 2 ans, ma première prédication avait justement été un jour des rameaux. Voilà, j'étais venu il y a 2 ans et c'est la première fois que j'ai prêché à Villars. Et ces fêtes des rameaux, généralement, ou en tout cas moi, pour ma part, on passe rapidement dessus. C'est la petite parenthèse avant Pâques. C'est un petit chemin, une petite route sur un humble âne. Et ce que je veux, là où je veux vous emmener aujourd'hui, c'est comprendre qu'il est impossible de célébrer Pâques sans célébrer les rameaux. Nous ne pouvons pas fêter Pâques sans les rameaux. Et aux rameaux, comme il a été dit, Jésus, approchant de sa dernière semaine, et aller en direction de Jérusalem, et comme le terme rameau l'indique, des gens, la foule, ont posé sur son chemin des rameaux d'olivier alors qu'il passait, assis sur un âne. Et il a donc fait ce chemin par le mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem, et c'est la dernière entrée de Jésus dans la ville sainte. Et donc, les rameaux me préparent pour Pâques. Rameaux m'invitent à reconnaître ce qui donne la paix. Les rameaux m'invitent à accueillir Jésus comme mon roi. Et accueillir Jésus comme mon roi est le seul chemin vers la paix. Donc nous allons lire en Luc 19. Et ce texte a quelques éléments quand même particuliers. Tout d'abord, c'est la première fois au rameau que Jésus, vous le verrez quand je vais le lire après, je fais mes 4 points et je lis le texte. Jésus assume publiquement sa royauté pour la première fois. Et lorsque la foule l'acclame et crie « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur », Jésus ne se cache pas. Jésus accepte, Jésus reçoit, Jésus assume sa royauté. Ensuite, Jésus est accueilli par une foule. Et cette foule qui accueille Jésus à Jérusalem, elle est paradoxale parce que ce sera également une foule qui le condamnera à mort. C'est une foule qui va préférer relâcher Barabbas plutôt que Jésus. Ensuite, et ça c'est un petit point, parmi tous les textes du Nouveau Testament, le récit des rameaux est le seul où on trouve le mot « âne ». En prenant les 4 évangiles, il est répété 11 fois, et c'est les 11 seules occurrences de âne dans tout le Nouveau Testament. Donc malheureusement pour le champ entre le bœuf et l'âne gris, Noël ne parle pas d'âne, les rameaux si. Et tout pour finir, vous verrez à la fin, on est face à l'une des rares paroles prophétique de Jésus. C'est une des rares fois où Jésus annonce, là en l'occurrence, la destruction de la ville qui ne le reçoit pas. Cette destruction va du coup s'accomplir dans la destruction du temple qui sera plus vers la fin du 1er siècle. Donc nous lisons Luc le chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne encore n'est jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent, tout comme Jésus le leur avait dit, comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus à mesure qu'il avançait. Les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, j'avais mis en avant cette prophétie de Zacharie 9. Cette prophétie qui dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus choisit l'âne pour venir à Jérusalem. Ou plutôt, Dieu l'a choisi. L'a choisi parce que ça accomplit cette parole de Zacharie 9 qui nous appelle à la reconnaissance, qui nous appelle à la joie parce que notre roi arrive. Et le choix de l'âne est intéressant. Et comme on le voit dans ce texte plus loin de Zacharie, « Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. » Le cheval est un instrument. Le cheval est un outil de guerre. Avec le cheval, on fait la guerre. Avec l'âne, c'est plus compliqué. Et ça, on le voit bien avec dans Job 39. Donc Job 39, c'est un texte qui parle de plusieurs animaux. Il parle des bouquetins, il parle des ânes, des buffles, des autruches, des chevaux. Et en parlant de l'âne, au verset 5, il dit « Qui a rendu l'âme sauvage, indépendant et l'a libérée de tout lien ?» Je l'ai fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation. Ils se moquent des grandements des villes. Ils n'entendent pas les cris d'un maître. » Et ici, il reprend cet aspect têtu de l'âne. Il dit « L'âne n'entend pas les cris de son maître. Le maître a beau crier, l'âne n'obéit pas. » Sauf à Jésus. Au contraire du cheval, dans lequel Dieu dit, ou plutôt le psaume nous dit, « Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui habille son cou d'une crinière flottante, qui fait rebondir comme la sauterelle, son fier hennissement est source de terreur ?» En choisissant un âne, le texte de Zacharie montre bien que Jésus est un roi différent, que le Messie ne vient pas apporter la paix comme les conquérants l'apportent. Et il y a 2 ans, c'est de ça dont j'avais parlé. Jésus est une figure particulière. C'est l'une des rares figures dont on se souvient et qui n'a mené aucun combat. Mais ce chemin que fait Jésus nous rappelle aussi une autre histoire. Et cette histoire, c'est la très connue révolte d'Absalom. Je crois que nous connaissons tous la révolte d'Absalom. Non, Absalom, ou Absalom, est un fils de David. Alors, il est plutôt haut dans la liste pour hériter du trône. Et Absalom va faire une tentative de coup d'État contre son père pour lui prendre le pouvoir. On trouve ça dans 2 Samuel 15 jusqu'au chapitre 18 environ. Et donc, lorsque le roi David apprend que son fils vient depuis Hébron avec des troupes, le grand roi David fuit la capitale. Il fuit Jérusalem pour se cacher loin. Et le texte nous dit, 1 Samuel 15, au verset 30, « David gravit le mont des Oliviers, il montait en pleurant, la tête couverte, et il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête et montaient en pleurant. » Et les premiers versets du chapitre 16, « Lorsque David eut dépassé le sommet, Tsiba, un de ses serviteurs, répondit, « Les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Et donc, qu'y a-t-il de ressemblant entre les rameaux, Jésus qui entre dans Jérusalem, et cette histoire de la révolte d'Absalom? Alors tout d'abord, et les deux textes le mentionnent, le lieu est similaire. Dans les deux cas, nous sommes sur le mont des Oliviers. Ensuite, la monture est similaire. David et Jésus montent un âne. Et ensuite, ils font quelque chose de similaire, c'est-à-dire que les deux pleurent. David, en fuyant Jérusalem, pleure. Il nous dit ici, il se couvrait la tête, pleurant la tête couverte. Jésus, lorsqu'il entre à Jérusalem, pleure en voyant la ville. Et donc on voit qu'il y a quand même 2-3 éléments communs là sur ces deux histoires. Mais il y a une différence. Et cette différence, elle est significative. La différence, c'est la direction. Jésus prend le chemin inverse de David. Alors que ce dernier monte sur un âne pour fuir Jérusalem, afin de sauver sa vie, Jésus monte sur un âne en direction de Jérusalem, sachant qu'il va offrir sa vie. Jésus sait que le chemin qu'il prend, que le chemin qui le mène à Jérusalem le conduira à la mort. Mais comme le texte nous dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jésus ne tremble pas. Alors que David a fui, Jésus fait face à Absalom. Et le comportement d'Absalom est... Il y en a peu qui est plus répugnant. C'est-à-dire que il est fils du roi. C'est un des plus âgés. Je crois que il semblerait qu'il soit dans les cinq premiers à hériter du trône. Donc voilà, niveau hiérarchie, il est plutôt en haut. Il a sûrement vécu, là pour le coup, une vie privilégiée au palais. Il n'a jamais manqué de rien. Il a pu profiter de plein de festins et il décide de s'opposer à son père et de vouloir lui prendre le trône. Et ce faisant, il cherche non seulement à être un régicide, à tuer son roi, mais bien plus, il veut tuer son père. Absalom, c'est un des pires crimes qu'il commet. Et si vous prenez les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère, ainsi tu auras une vie longue. C'est un des 10 commandements. Et Absalom, sans le moindre remords, entre dans Jérusalem pour destituer son père. Et de ce fait, il tente d'usurper le pouvoir. Et l'usurpation du pouvoir a donné un autre mot bien connu, c'est le terme de tyran. On imagine le tyran comme exerçant un pouvoir absolu, violent, agressif, mais en fait, le propre du tyran, le propre de la tyrannie, c'est d'usurper le pouvoir. La tyrannie exerce une autorité qui n'est pas légitime. Elle s'octroie une autorité qui ne lui appartient pas. Et de son côté, Jésus, en faisant face à Absalom, en allant à Jérusalem, Jésus s'oppose à la tyrannie. Et en s'opposant à la tyrannie, Jésus montre qu'il est un roi différent parce qu'il n'est pas un tyran. Et que tout autre roi, autre que Jésus, malheureusement, ne peut être qu'un tyran. Jésus est le seul légitime pour exercer l'autorité. Alors malheureusement, notre monde n'a pas encore été lavé de tous les tyrans. Et la tyrannie, c'est un terme qu'on aime bien. On l'emploie plein, il y a la tyrannie des émotions, la tyrannie des minorités, du bonheur, de l'urgent, de la nécessité, du progrès, de l'hyperspiritualité, de la nouveauté, de l'immédiateté. Tout, ou presque, peut tyranniser. Parce que nous avons, dans notre manière de vivre, dans notre nature, cette capacité à laisser quelque chose d'illégitime exercer un pouvoir sur notre vie. Et donc, en fait, Jésus s'oppose à ça. Jésus est le seul légitime à pouvoir exercer un pouvoir sur notre vie. Et donc, cette entrée triomphale de Jésus nous pose deux questions. Tout d'abord, elle nous pose cette question: qu'est-ce qui, dans ma vie, exerce un pouvoir illégitime? Et ensuite, elle nous pose la question: où est-ce que, dans ma vie, j'exerce un pouvoir illégitime? Jésus est le roi des rois. Il est le souverain légitime du royaume qui vient. Et son règne est différent. Et tout au long des évangiles, il n'aura cesse de nous l'expliquer. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et plus loin, il leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui conduit comme celui qui sert. Le règne de Jésus est différent parce qu'au lieu d'asservir pour régner, Jésus sert pour régner. Jésus se met au service de ses disciples pour régner. Et contrairement à David, il ne fuit pas. En quelque sorte, en allant à Jérusalem, Jésus vient, on peut le dire, à ma rencontre. Il vient à la rencontre de qui je suis et il m'annonce clairement, je suis ton roi. Et en fait, toute la force de Pâques, toute la grandeur de Pâques, c'est le sacrifice de Jésus. Mais en se sacrifiant, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est mon roi. Et donc, j'ai besoin de recevoir Jésus comme mon roi pour pouvoir comprendre la profondeur et la grandeur de Pâques. Pâques, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui offre sa vie pour moi et qui ressuscite le troisième jour. Pâques, ce n'est pas un inconnu. Pâques, ce n'est pas quelqu'un comme moi, par exemple. Pâques, c'est Dieu qui vient se donner pour nous. Et ça change tout. Ça change tout parce que si Jésus est mon roi, si Jésus est notre roi, alors c'est que je ne suis pas mon propre roi. Ça peut paraître simple, ça peut paraître simplet, mais si Jésus est roi, c'est que je ne le suis pas. Mais comme nous l'avons vu, et j'aimerais insister aussi là-dessus, si Jésus est mon roi, alors ceci m'adresse un appel à la liberté. Un appel à recevoir cette liberté de tout ce qui cherche à régner sur moi. Que ce soit des mauvaises habitudes, que ce soit des pensées, que ce soit des relations, que ce soit des rêves, toutes ces choses autres de Jésus qui cherchent à me rendre esclave, je peux les rejeter parce que Jésus est mon roi. Et donc, toutes ces choses qui sont illégitimes, je peux y renoncer. Je peux renoncer aux tyrannies de la vie pour recevoir mon roi. Et donc, je veux vous laisser avec cette espérance et ce message pour la semaine qui vient. Nous sommes les citoyens d'un royaume qui vient, mais d'un royaume qui n'est pas de ce monde, dont le roi est Jésus. Et je vous invite à préparer ces fêtes de Pâques, à préparer ces fêtes où nous célébrons la mort et la résurrection de Christ avec cette perspective du royaume. Et dans cette perspective du royaume, non seulement Jésus est mon roi, mais un jour, nous célébrons Pâques dans le royaume de Jésus. Amen.